sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère,
l'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
sur Radio Bartas.
107 FM.
À table.
Retrouvez-nous une semaine sur deux, le mardi à 15h et le dimanche à 11h30.
Bonjour à toutes et à tous, mangeuses et mangeurs du Sud-Lozère. Bienvenue dans le 11e épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT. C'est le projet alimentaire de territoire du Sud-Lozère. Aujourd'hui, c'est Floriane, co-animatrice de ce projet au PETR, qui vous parle. L'objectif du PAT, c'est rendre accessible à tous et à toutes une alimentation saine, durable et locale. Comment ? En mettant autour de la table toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture et à l'alimentation et qui souhaitent s'impliquer, par exemple, pour installer des agriculteurs ou des agricultrices, développer les circuits courts et de proximité, proposer des ateliers cuisine, instaurer l'éducation au goût et faire des ateliers potagers à l'école, ou encore favoriser les jardins potagers. Lors de l'émission précédente, Louise, la co-animatrice du PAT, vous a parlé du projet Treille et Terrasse avec ses invités. Louise Yann, chargée de mission agriculture et territoire au syndicat des Hautes-Vallées-Sévenoles, en charge de ce projet, et Benoît Delaporte, agriculteur installé à Saint-Germain-de-Calbert, qui pilote un site expérimental du projet Treille et Terrasse, justement, au Calcaire. Et la chronique Cuisine et Santé est revenue sur la thématique des minéraux, des antioxydants et des vitamines. Aujourd'hui, nous aurons une chronique jardin avec Jean-Jacques sur la culture de la pomme de terre. Et pour ce qui est de la première partie de l'émission, nous allons parler du maraîchage en Sud-Lozère avec Laurence Bourry, agricultrice à Bédouès, et Julien Marie, animateur au CIVAM qui coordonne le GI2E maraîchage. Bonjour à tous les deux.
Et bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, on va planter un peu le décor quand on parle du maraîchage sur le sud de la Lozère, savoir tout simplement combien de fermes sont concernées, quel type d'activité c'est. Donc on a à peu près une trentaine de fermes dont c'est l'activité principale, avec aussi des fermes où c'est plus une activité de diversification. Moi, je pensais qu'on avait majoritairement des légumes d'été qui étaient produits. Finalement, ce n'est pas forcément tout le temps le cas, puisque ici, des fois, la saison estivale peut être très sèche, il peut y avoir des saisons courtes. Et donc, finalement, les légumes d'automne et d'hiver, les légumes de garde, sont plus faciles à réussir.
C'est un point de vue. Je ne serais pas aussi radical, puisque chaque légume a ses particularités. Ouais. Et les années se suivent et se ressemblent pas. Donc il peut y avoir des années où ça fonctionne, les légumes d'hiver, et d'autres moins.
Et si une autre caractéristique quand même des fermes en maraîchage sur le sud de Lozère, c'est qu'elles sont toutes en agriculture biologique et qu'on a des fermes qui ont plutôt des petites surfaces inférieure ou égale à 1 hectare, il y a une seule ferme qui a plus de 3 hectares. Ce qu'on peut aussi dire pour planter un petit peu le décor, c'est qu'il y a quand même une dynamique d'installation avec des candidats assez nombreux qui ont des projets souvent pertinents. C'est des gens qui sont motivés, qui ont souvent de l'expérience dans ce domaine-là, qui se sont formés et qui arrivent avec des projets assez structurés pour le territoire. Par contre, ils se confrontent souvent à des problèmes d'accès au foncier. Et puis ensuite, d'adaptation des terrains à ce type d'activité. Et puis, il faut aussi parler de la ressource en eau, avec des fois des difficultés d'accès, de quantité. Pour reparler à l'échelle départementale, on a quelques chiffres de la Chambre d'agriculture. Donc avec 18 installations entre 2017 et 2022, qui incluait une activité de maraîchage. Et il y a 34 nouvelles entreprises qui se sont déclarées, pareil, entre 2017 et 2022, avec cette activité principale. On peut aussi donner quelques caractéristiques en fait, du territoire sud-Lozère par rapport à cette activité de maraîchage, un peu en termes de d'atouts. Donc on le sait, sur un territoire qui est quand même très préservé au niveau de l'environnement. On a un marché qui n'est pas encore saturé et une demande quand même de plus en plus importante des consommateurs sur ce type de produit. On a aussi des actions qui ont déjà démarré pour faire du lien entre les producteurs et notamment la restauration collective. Par contre, comme je le disais, il y a quand même encore des difficultés d'accès aux fonciers. Après, sur toute la question de l'activité en elle-même, c'est une activité qui représente une charge de travail importante. Mais ça, Laurence, tu vas sans doute nous en parler. Et puis, on a des soucis de transport, logistique, frais de livraison du fait de la géographie de notre territoire. Et puis l'attention à l'eau, mais je venais d'en dire quelques mots. On ne peut pas s'installer en maraîchage sans réfléchir à comment on va utiliser l'eau sur son terrain. On va rentrer dans le vif du sujet et dans le concret. Donc on a invité une agricultrice qui fait du maraîchage à Bédouès. Et donc voilà, Laurence, est-ce que tu peux nous présenter un peu ta ferme, nous parler de...
Oui, bien sûr. Donc je suis installée à Bédouès depuis 2017. Je cultive une surface de 2 hectares en maraîchage diversifié et la ferme est certifiée bio. Je vais quand même mettre une petite parenthèse. J'ai un atelier secondaire qui est poule pondeuse bio, qui est utile aussi dans le cadre du maraîchage par rapport à son apport de fumier. Voilà. Je cultive 40 espèces de légumes différentes. Et si j'additionne toutes les nombres de variétés différentes, c'est une centaine de variétés différentes. Pour donner un exemple, une espèce de légume, ça peut être la tomate, et je vais faire 15 variétés de tomates. Voilà. Je produis toute l'année. Donc,
autant des légumes d'été que des légumes d'hiver.
Exactement. Plus des légumes d'intersaison que des légumes d'été au final, puisque comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, la saison estivale sur la Lozère est quand même assez courte. Et au niveau de mes débouchés, je fais 100% de ma production en vente directe via trois créneaux différents, en boutique de producteurs, sur un marché et en vente à la ferme.
En quoi c'est particulier pour toi de faire du maraîchage en Lozère, dans le sud du département ?
Ce qui est particulier, c'est qu'on a un climat qui est relativement contrasté. Et on doit adapter la saisonnalité de nos semis, plantations et récoltes plutôt en fonction du lieu géographique dans lequel on se trouve. Donc moi, j'ai la chance de ne pas être en altitude. Je suis à 550 mètres d'altitude, ce qui est quand même plutôt très bien par rapport au fait qu'on soit en Lozère. J'ai des collègues qui sont à 900 mètres ou 1000 mètres d'altitude et là, c'est complètement différent. Et ce qui me permet de pouvoir produire plus longuement que certainement les collègues qui sont plus en altitude. Autre particularité, nous sommes en Lozère. Il y a à peu près 70 000 habitants sur toute la Lozère. Et sur le secteur de Florac, c'est très touristique. Mm-hmm. Donc on a des demandes qui sont très fluctuantes. Il faudrait multiplier nos surfaces par 5 pour l'été et les diviser par 3 pour l'hiver. Donc il faut jongler avec tout ça, tous ces paramètres.
C'est effectivement aussi ce qui se pose comme problématique quand on veut fournir la restauration collective, donc notamment les cantines, avec à l'inverse, là, par contre, une demande plus importante de septembre à juin et pas de demande en été. Donc c'est vrai que là, des fois, on se dit « Ah, il y a peut-être un truc à faire ». D'après toi, c'est quoi qui peut attirer tous ces porteurs de projets à vouloir faire du maraîchage ? Quel sens ça a pour toi aussi en tant que paysanne ?
Je vais juste faire une parenthèse. Moi, c'est une reconversion professionnelle. Okay. J'ai été 20 ans salariée auparavant. Et ce qui m'a attirée vers le maraîchage, c'est de pouvoir être libre. Quelquefois, on paye chèrement cette liberté. Mais ça part, et les collègues sont tous un peu pareils, sont tous passionnés à la base. Mmh. Et de faire une activité qui est très diversifiée, valorisante d'un point de vue valeur, contact humain. Et c'est ce qui doit... travaille avec la nature aussi, les saisons. C'est un métier qui est très varié. Donc je pense que c'est ce qui attire les personnes en maraîchage.
Et alors justement, une saison de maraîchage, ça ressemble à quoi ? Après, j'imagine, on n'a pas une pareille, justement.
Oui, tout à fait. Si quelqu'un a beaucoup de serre, il va pouvoir s'épargner les grosses périodes de gel en pouvant continuer en protégeant ses légumes à cultiver. Il n'y a pas de cas identique. Et la saisonnalité, c'est qu'il y a du travail toute l'année. Alors l'hiver, il fait froid, il gèle, mais on réfléchit à ce qu'on va faire l'année d'après, donc on planifie. Bah, c'est semer, c'est repiquer les plants, c'est récolter, c'est suivre les cultures. En agriculture biologique, il faut faire un gros suivi des cultures. C'est vendre, parce que produire, c'est bien. Mais la finalité, quand même, c'est de pouvoir écouler sa production. Et il y a toujours quelque chose à faire.
Oui, en fait, quand on écoute ce que tu dis, on voit qu'être maraîchère, c'est être très polyvalente. Et en termes d'organisation du travail et de contraintes un peu même physiques, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, dans le sens, on a toujours du travail, on doit s'occuper des cultures, on doit livrer les clients, on doit préparer les légumes, puisque les légumes, quand on les récolte, ils ne sont pas forcément aptes à être commercialisés tels quels. Il faut aussi avoir une gestion économique, c'est quand même une entreprise, même si c'est être agriculteur, c'est être chef d'entreprise. Et pouvoir aussi gérer physiquement la charge de travail. Effectivement, c'est une activité très chronophage et très pénible, puisqu'on est en permanence en train de soit faire des gestes répétitifs, soit porter des charges lourdes, et être aussi soumis aux intempéries, au froid, à la pluie, et... Quelquefois, il fait très bon et c'est très agréable. Et d'autres fois, c'est un petit peu plus difficile d'aller au boulot.
Toute cette expérience, tu la partages en ce moment au sein du GI2E Maraîchage, puisque tu fais partie des maraîchers qui participent à ce groupe qui fonctionne depuis 2024. Et c'est Julien qui l'anime pour la FR Civam Occitanie.
Et oui.
Est-ce que tu peux nous parler rapidement déjà du Civam? Alors, avant de rentrer
CIVAM,
dans le...
Du CIVAM ou des CIVAM, ou alors les CIVAM, pour le petit acronyme, ça veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc en fait, les CIVAM, ça peut être des groupes locaux, comme des fédérations départementales, comme des fédérations régionales ou le réseau national. Et donc moi, je suis salarié de la fédération régionale, et au sein de cette fédération, on a aussi des missions d'accompagnement de groupes sur les territoires. Donc en l'occurrence, moi, je travaille uniquement sur deux collectifs en Lozère. J'ai eu deux maraîchages Lozère et un groupe avec lequel on travaille sur l'émergence de l'abattoir local et coopératif à Sainte-Croix-Vallée française. Donc quand même cette idée-là de partir de préoccupations ou de besoins de collectifs, et c'est souvent monté autour de collectifs agricoles en fait. Nos employeurs, nos administrateurs sont la plupart des paysans ou des acteurs du monde rural. Donc en fait, il faut le voir comme du développement rural et du soutien et de l'accompagnement de dynamiques collectives. Donc en fait, les CIVAM, ils portent des valeurs qui sont liées au mouvement d'éducation populaire, de solidarité, d'échange entre pairs, entre agriculteurs. Et globalement, mon travail en fait, va consister à comprendre déjà quels sont les besoins des paysans qu'on accompagne et de soutenir un peu les dynamiques qu'ils aimeraient bien voir émerger.
Est-ce que tu peux juste nous redire qu'est-ce que ça veut dire GI2E aussi?
Alors un GI2E, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental. Voilà. Et c'est en fait un groupe de personnes qui est reconnu officiellement par la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt comme s'inscrivant dans une démarche de progrès sur ces plans-là, économiques et environnementaux. Et donc ça comporte un certain nombre d'actions fléchées avec des objectifs.
Est-ce que tu peux nous reparler de l'origine un peu de ce projet? Ça s'est fait en partenariat avec aussi d'autres acteurs du territoire?
Ouais, la genèse du projet, ça date quand même d'il y a quelques années. En fait, il y avait sur le territoire, il y a la DAR, ou anciennement alors le DAR, le Parc National des Cévennes, et la FR CIVAM qui sont positionnés à un moment sur accompagner mieux le maraîchage, sachant que c'est pas du tout fait, enfin c'est très peu fait, la filière n'est pas du tout accompagnée sur le département. Et donc il y avait cette motivation-là d'amener soit de la formation, soit des échanges techniques. Il y a eu des choses qui ont été mises en place depuis 2021 avec ces trois structures-là. Notamment, il y avait eu un stage aussi sur les conditions de travail en maraîchage et le bien-être dans le travail en maraîchage. Il y avait eu aussi une formation sur le sol, sur les semences. Et donc, en fait, il y a eu l'émergence de GI2E qui a duré un an, entre 2023 et 2024. Et en 2024, un peu, tout le monde, tous les producteurs assis autour d'une table étaient assez d'accord pour continuer ce travail-là. Et donc, on a fait un dépôt de reconnaissance auprès de la DRAF. Et ça a été reconnu en 2024. On a démarré officiellement les actions du GI2E, là, en décembre 2024.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément des différentes journées justement thématiques que vous avez organisées ou que vous allez organiser?
Elles viennent toutes répondre un peu à un même besoin, c'est-à-dire s'adapter au changement climatique, au contexte économique qui change, à son territoire et aux caractéristiques de ce métier de maraîcher ou de maraîchère, quoi, globalement. Donc c'est des besoins techniques sur des thématiques que sont le sol, la fertilité, l'eau, la gestion de l'irrigation, la biodiversité, fonctionnelle. L'adaptation des semences, et puis il y a aussi un volet sur le bien-être au travail et l'ergonomie. Et en plus de ça, ces journées-là, elles sont ouvertes à tous les maraîchers qui le souhaitent. Alors du coup, le groupe, il est plutôt centré sur le sud de Lozère, parce que ça va de... Les membres vont de, en gros, Chanac à Saint-Étienne-Vallée-Française. Mais et le fait d'être sur des journées qui sont plutôt sud de Lozère, bah, il y a plutôt des gens du sud de Lozère. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trop toucher les gens du nord de Lozère. Et après, il y a aussi la volonté qui a émergé de travailler sur des références techniques et technico-économiques. Et là, c'est-à-dire de comprendre les exploitations d'une année sur l'autre, comment elles s'en sont sorties économiquement, qu'est-ce qui fait qu'elles s'en sont sorties. Donc là, on peut regarder qu'est-ce qui est rentré, les débouchés, voilà. Et notre manière, plus au niveau technico-économique, c'est de regarder de plus près les productions et d'essayer de suivre un peu, de se donner des repères sur les productions, sur des prix de revient, sur des rendements, des prix de vente, et avoir un peu des outils qui soient un peu communs, qui soient construits en commun et qui permettent d'alimenter tous ces échanges et puis en gros de structurer un peu plus la filière et de pourquoi pas plus facilement répondre à la restauration collective, la restauration privée, voilà, se projeter un peu sur des débouchés plus affirmés et peut-être un peu moins que sur vente directe ou que circuit court et aller toucher des débouchés un peu plus gros, quoi, voilà.
Et permettre aussi de répondre aux questions des porteurs de projets qui veulent s'installer et qui, des fois, n'ont pas forcément une idée de comment ils vont pouvoir travailler ici.
Oui, complètement. C'est l'intérêt, quand même, de donner des repères entre producteurs et aussi pour les gens qui ont envie de s'installer, de voir qu'est-ce qu'ils font les maraîchers dans le coin, sur quoi ils peuvent un peu tabler comme rendement, le temps que ça peut prendre, les besoins, les moyens que ça demande, etc. Oui, complètement. Ouais.
Et vous réfléchissez aussi aux questions de mutualisation? Est-ce que t'en as pas tant que ça à parler?
Ouais, je l'ai pas développé, ouais. Mais effectivement, ça fait partie du package, en tout cas parce qu'il y a un vrai intérêt en fait du groupe là sur ces questions-là. Alors initialement, c'était pas forcément dans les actions du GI2E, mais en fait, de fait, ça le devient parce qu'en fait, c'est hyper structurant et dans la vie du groupe, en fait, ça génère beaucoup d'échanges et beaucoup d'intérêt à être ensemble. Mutualisation, bon, c'est un gros mot. Mais en gros, c'est réfléchir à des achats groupés, donc essayer peut-être de faciliter les points de livraison, peut-être pourquoi pas les tirer des prix quand on commande à plus nombreux, des plus grosses quantités. Sur la mise en commun de matériel, donc il y a des cumas, mais on peut aussi penser à réfléchir à d'autres formes pour partager du matériel, que ce soit de la copropriété ou des matériels qui soient comme en cuma. Pourquoi pas aussi aller voir d'autres cumas, voir ce que font les autres cumas et compter sur elles. Après, il y a des idées là qui commencent à avancer un peu d'utilisation de déchets verts, notamment qui sont issus de la plateforme de broyage là, de Saint-Julien-du-Gour, là, de l'environnement sud de Lozère. Et donc là, il y aurait peut-être une idée de trouver un endroit pour faire une plateforme et composter ces déchets verts et pouvoir en faire un engrais, un paillage et un engrais aussi. Voilà. Donc il y a pas mal d'idées autour de cette mutualisation et peut-être une idée à plus long terme, ça pourrait être de travailler sur un peu le côté logistique, commercialisation. Mais ça, c'est un terrain peut-être où ça demande quand même un travail et puis peut-être plus que les gens se connaissent bien et puis que la mayonnaise ait le temps de prendre et que les liens se fassent comme il faut. Et puis vous êtes un peu là pour ça, j'ai l'impression, quand même, au niveau du PAT, du PETR.
Ouais, on va y revenir après, ouais carrément. Merci. Laurence, est-ce que toi, tu peux nous dire pourquoi tu t'es impliquée dans ce GI2E ? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, humainement ? Enfin, voilà, nous donner un peu ton sentiment.
Le GI2E, déjà, pour moi, c'est d'abord une aventure humaine, puisque ça permet de connaître aussi les collègues. Et ça permet aussi, ça va nous permettre aussi de structurer la filière du maraîchage au niveau de la Lozère. Bah, ceci grâce à Julien qui anime le groupe. Ça nous permet de nous rencontrer régulièrement sur des thématiques qu'il a citées précédemment et qui vient enrichir nos façons de faire et nos façons d'être. Et de pouvoir aussi discuter avec les collègues qui comprennent nos problématiques individuelles. Donc nous sommes un groupe d'individus qui arrivons à se comprendre et ça nous permet d'avancer et de faire des choses qui vont permettre de nous aider plus tard. Enfin, voilà mon point de vue.
Ouais. Et est-ce qu'il y a une action en particulier qui te tient vraiment à cœur dans tout ce que Julien a évoqué ?
Il y a deux choses qui me tiennent plus particulièrement à cœur. Il y a effectivement pouvoir mutualiser le matériel, les achats, puisque la vie économique d'une entreprise, elle en passe par là. On est tous des petits producteurs. Et c'est vrai que de pouvoir se grouper pour limiter les frais de livraison ou faire baisser les prix d'achat, c'est des axes qui sont importants malgré tout. Et puis la deuxième, c'est les côtés sur les échanges techniques et les formations aussi, les réunions qu'on a pu faire sur la biodiversité, comment enrichir la biodiversité au cours de ces parcelles. Enfin, il y a plein de choses.
Ok. Est-ce que, Julien, tu peux nous dire là la prochaine journée thématique, elle a lieu sur quel sujet ?
Alors, et elle prochaine journée thématique et puis peut-être prochain travaux du GI2E. Alors, la prochaine journée, c'est demain, mais demain, c'est le 7 février. Alors, ça ne marchera pas pour les auditeurs. Mais
ça sera passé.
La prochaine journée, c'est une journée sur le sol, sur la fertilité. Et on a un technicien qui vient d'Aveyron et entraîner les maraîchers et les maraîchères qui seront présents là, à lire une analyse de sol et à la mettre en lien avec des pratiques et puis des principes un peu de gestion de sa fertilité, de son sol, donc avec des rapports, des rappels un peu théoriques et puis surtout une mise en pratique par rapport à ces résultats d'analyse qui peuvent paraître un peu barbares quand on les regarde et qui en fait, avec un œil un peu aiguisé, peuvent dire pas mal de choses et... Et voilà. Et donc là, le J2E, par exemple, finance ces analyses de sol et finance la venue du technicien. Voilà. Et donc, en fait, c'est ouvert principalement au même J2E, mais en tout cas, c'est pas non plus fermé aux autres maraîchers qui voudraient se joindre sur ces journées-là. Ouais. Et voilà. Et puis, dans cette perspective-là, de faire participer plus de monde à ces journées, à ces échanges, je suis quand même en lien avec le technicien de la chambre d'agriculture, hein, Maxime Collomb, qui s'occupe d'agriculture biologique, parce que eux accompagnent un groupe là en Nord-Lozère qui a pu répondre à un appel à projet, un appel d'offres des hôpitaux de Lozère là pour fournir les cantines des hôpitaux de Lozère. Donc il y a déjà l'existence de ce groupe-là, je crois qu'ils sont 3 ou 4 de mémoire là sur ce groupe. Donc la Chambre accompagne un peu cet effort-là et aussi accompagne la diversification d'exploitation en élevage avec de la production maraîchère en plein champ pour éventuellement, avec des productions un peu conséquentes, venir combler et répondre à cette demande là, de restauration collective ou privée. Mmh. Et voilà, donc là l'idée c'est peut-être de faire des ponts avec ce travail-là et de voir comment... ce qu'on fait là un peu plus en sud de Lozère, éventuellement au niveau technique, ça pourrait s'aimer ailleurs sur le territoire. Et puis, comment on peut répondre à ces besoins, enfin, s'il y en a en tout cas, pour mutualiser, quoi. Est-ce qu'il faut mettre en place des outils, des tableaux, des fonctionnements, enfin, faire réfléchir les gens à ça, si en tout cas il y a un intérêt et un besoin de leur part. Ouais.
Merci. Moi, il faut que je vous parle quand même un petit peu de ce que fait le PETR dans ce champ-là. Et c'est surtout ma collègue Louise qui mène depuis plusieurs années en fait l'accompagnement de ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne, et notamment les cuisiniers des restaurants collectifs, donc scolaires. C'est un travail qui se fait un peu au cas par cas, avec des accompagnements souvent un peu sur mesure pour répondre au maximum à leurs spécificités en termes de volume, en termes de demande de tel ou tel produit. Depuis l'année dernière, on a aussi eu une étude du département qui a été faite sur les productions végétales et leur consommation dans les collèges. Donc c'est intéressant parce que ça donne un peu plus de données sur quels produits sont consommés dans chaque collège, etc. Et Louise, de par ses relations régulières avec les cuisiniers, elle peut mettre en avant aussi un peu leurs exigences en termes de prix. Mais aussi de calibrage, de nettoyage des légumes, de volume, de régularité dans les commandes. Donc tout ça, c'est une expérience qu'on commence à avoir sur le territoire. On fait aussi le lien avec le département qui anime la plateforme AgriLocal, qui permet de mettre en relation les acheteurs publics, que sont les gestionnaires d'établissements, et les producteurs. Ça, c'est quand même déjà un outil qui existe et qui peut être utilisé assez facilement, sur lequel il y a un accompagnement à l'échelle départementale. Et aussi, nous, on s'en fait le relais au PETR. Disons qu'il y a déjà plein de choses qui se passent de ce côté-là. Et peut-être que je peux parler aussi rapidement de l'installation d'un maraîcher à Florac qui a été accompagné par le PETR, avec vraiment... comme objectif qui puisse fournir la cantine de Florac. Donc c'est Simon qui s'est installé l'année dernière avec qui il y a un accompagnement de fait pour pouvoir vraiment aller vers une contractualisation en fait entre la commune de Florac et son exploitation sur des quantités de légumes. Donc là, je peux vous donner quelques chiffres très précis. Entre septembre et décembre 2024, l'école lui a commandé 217 kilos de choux, 205 kilos de carottes, 70 kilos d'oignons, et après aussi des poireaux, des courges, des patates douces, des navets. Voilà, donc c'était sa première saison. L'idée, c'est d'augmenter encore sur les légumes d'hiver. Il se trouve que Simon fournit aussi l'Institut Agro, la masse, le collège. Enfin, voilà. Donc là, on a en action un partenariat qui est en train de se tisser avec une installation récente et des établissements qui jouent le jeu. Julien, vas-y, tu veux dire quelque chose ?
Ouais, en plus, Simon, en fait, c'est un peu ce qui l'a motivé dans ce projet-là, et en tout cas à répondre à cet appel à projet de la mairie que vous avez accompagné, là. C'était vraiment ce côté-là, parce que c'est quelqu'un qui a une bonne expérience en maraîchage,
qui était 4 ans
en cadrant technique, et du coup, quand il s'est installé, c'est ce qui a vraiment motivé son projet, enfin son installation, son envie, là, c'est ce travail-là autour de la restauration collective, quoi. Et c'est vrai que, quand même, enfin... Je sais pas, ça paraît du bon sens que de dire que les légumes que les cantiniers font manger aux enfants, ils viennent du territoire, ils sont bio encore plus, ils sont faits localement. C'est quand même, je pense, gratifiant pour tout le monde, quoi, que ce soit pour les producteurs, pour les cantiniers. Et je pense que les parents, ils en seront que plus contents aussi.
Et en plus, ça permet aux communes de respecter la loi EGalim qui, normalement,
impose faire des lois pour ça.
Tout ça. il y a aussi sur Saint-Étienne-Vallée-Française deux maraîchères qui se sont installées. Et là, pareil, il y a quand même une mise en lien avec le collège notamment. Les choses avancent doucement, mais sûrement. Ma collègue Louise fait aussi tout un travail justement sur le prix des produits, parce que l'idée que les produits locaux sont forcément plus chers, et c'est pas forcément le cas. Et même sur les légumes bio... on est vraiment sur du coût humain pour apporter des réponses les plus précises possibles aux gestionnaires. Elle fait ce travail jusque dans ce détail-là. Après, ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment une problématique sur la logistique, les livraisons. Et c'est pour ça qu'au PETR et dans le cadre du projet alimentaire de territoire, on réfléchit et on va évidemment s'appuyer aussi sur... l'expérience de ce GIDE à une plateforme pour faire vraiment se rencontrer les produits locaux et les acheteurs et un truc concret quoi avec des chambres froides, des camions, enfin voilà. Alors après, nous on a envie de porter une expérimentation. On ne sait pas du tout quelle forme ça peut prendre. L'idée c'est d'essayer de voir comment ça pourrait faire avancer cette question là. Avec effectivement l'objectif que les légumes qui soient mangés dans les cantines viennent d'ici. Ces plateformes, on en parle dans plein de départements, à des échelles variées. Il y en a qui existent déjà. J'ai eu au téléphone, là, juste hier, l'animatrice du PAT de l'Aveyron. Donc là, on est à l'échelle départementale. Et ils ont créé justement hier l'association qui va être le support de cette plateforme logistique. Y a des territoires qui se lancent dans le truc. Donc c'est souvent des projets qui se font dans le cadre de projets alimentaires de territoire, soutenus souvent par les départements. Ça nous fait aussi des expériences à aller... à découvrir et avec des gens avec qui discuter pour voir comment ils mettent les choses en place très concrètement quoi.
Eh ben vivement, j'ai envie de dire moi. Ça existe dans beaucoup de départements. Il y a des légumeries et en fait ça vient répondre à un besoin de effectivement comme tu parlais tout à l'heure de calibrage et de préparation pour que ce soit plus facilement vendable en restoco par exemple. Effectivement des légumes s'ils sont déjà lavés, s'ils sont déjà blanchis, s'ils sont déjà et ça permet de gérer aussi de la surproduction pour qu'on puisse, on peut stocker, on peut différer un peu les ventes, ça permet de faire gagner du temps en cantinier, de leur permettre d'acheter plus facilement ces produits là plutôt que d'aller sur des centrales il y a effectivement un vrai intérêt. Après il y a une grosse contrainte de d'échelle en fait, parce qu'effectivement un département comme l'Aveyron ou la Dordogne, en termes de surface, de saisonnalité, c'est différent, en termes d'accessibilité, c'est différent. Et à Lozère, on part quand même avec ce gros handicap-là. Du coup, c'est vrai que de réfléchir à un projet viable, vivable pour la Lozère et qui permette de remplir là, ce besoin d'acheminement de produits, enfin d'avoir du produit local dans les cantines, et même pas que dans les cantines, en fait, pour tout un chacun, finalement, que tout le monde puisse avoir des bons produits de qualité, produits localement. C'est quand même un sacré enjeu, c'est louable. Enfin, on va plutôt souhaiter aux gens de manger bien et des bons aliments plutôt que le contraire. Voilà. Donc il y a un gros boulot là-dessus. Et là, dans le cadre du GI2E sur la mutualisation, on est parti un peu sur un outil comme ça de scénariser c'est quoi le minimum, vers quel idéal on veut tendre. Et le minimum, finalement, c'est un peu la forme que commence à prendre le GI2E, là. Avec l'histoire de banque de temps et de mise en commun de matériel, éventuellement, d'entraide et de mise en commun de matériel. Et puis, alors, l'idéal, ce serait vraiment la structure avec de la logistique où on est capable d'anticiper des productions pour répondre à de la demande de collectivité. Il y a une légumerie pour faire de la transfo. Je sais pas, Laurence, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme idée? Tu te souviens, toi, dans ce qu'on avait discuté?
C'était principalement ça, puis aussi un peu de pédagogie auprès de... des établissements de la restauration hors domicile, puisque utiliser des bons produits locaux, c'est aussi savoir les préparer et les travailler en aval.
Et je crois que ça s'est déjà mené par le département, non ?
Ça, c'est mené à la fois par le département. Il y a des formations qui sont faites auprès des cuisiniers et aussi des rencontres. Des visites de ferme en fait pour amener les cuisiniers chez les producteurs chez qui ils pourront après commander les produits, et c'est fait aussi par le PETR dans le cadre de différents projets. Et donc là on va accompagner de façon globale deux établissements sur leur projet vraiment d'approvisionnement et aller jusqu'à l'étape de la cuisine et de comment on cuisine tel ou tel produit, etc. Ouais. Donc ça, c'est aussi en cours. Et pour terminer, peut-être, ça serait quoi, d'après vous, l'enjeu un peu pratique de cette structuration? Alors, avec une plateforme physique, mais les producteurs, ils ont besoin de savoir quoi, en fait, par rapport à ces différents acheteurs publics, donc par exemple les cantines.
Pour les producteurs, il faut pouvoir anticiper, planifier, comme Laurence parlait tout à l'heure d'une organisation, en fait, sur une saison, ça va se faire à l'hiver, quoi. Alors, du coup, des cantines, effectivement, peut-être qu'en routine, elles savaient pas forcément d'un mois sur l'autre ce qu'elles proposaient, peut-être maintenant un peu plus, et peut-être même l'idéal, ce serait de se dire, bah, sur une année, des maraîchers savent qu'ils doivent produire à peu près telle quantité pour telle restauration, quoi. Et donc, en fait, que le collectif en puisse, de manière autonome, faire les bons choix sur les surfaces, sur quelles variétés pour bien répondre comme il faut à la demande, et avec des produits adaptés et des saisonnalités adaptées et des quantités adaptées. Voilà. Mmh. Pour éviter, en fait, l'effet de on prend ce qui reste, on le propose à la cantine, ou enfin voilà, il y a un peu de. C'est pas la cantine la variable d'ajustement, et c'est pas forcément le marché la variable d'ajustement. L'idée, c'est d'organiser le débouché, de savoir qu'est-ce qu'on destine un peu aux cantines scolaires ou aux restaurations hors domicile, et d'arriver à le faire de manière à ce que les gens soient sécurisés, en fait, par ces relations-là commerciales.
Que ça puisse être vraiment anticipé, et que ça soit fait peut-être même dans le cadre de contractualisation, comme ce qui est en train de se passer entre la cantine de Florac et Simon Rousset, le maraîcher, ouais, qui s'est installé l'année dernière. Ben, merci à vous.
Merci.
Merci Floriane.
À bientôt. Avant de passer à la chronique jardin, 2-3 infos sur les prochaines actions du projet alimentaire de territoire. Une réunion du groupe qui réfléchit à une sécurité sociale de l'alimentation va avoir lieu fin février. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et un atelier pour les enfants du club de foot de Florac, animé par le Réel, aura lieu le 18 février pendant les vacances pour imaginer autrement le goûter.
Yes, yes, my flowers are beautiful.
Jackie, c'est l'homme qui murmure à l'oreille des légumes.
Et qui les écoute aussi, c'est important.
Et il les a trouvés où, ces légumes? Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carotte?
Le drame avec Jean-Jacques, c'est qu'il ne peut pas contrôler sa force.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, tu es intervenant pour l'association Jardin Nature 48, et c'est toi qui anime cette chronique jardin. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la pomme de terre.
Et oui, la pomme de terre, c'est un des légumes vraiment qui peut sauver la planète. Pourquoi ? Alors, la pomme de terre, déjà, c'est un des plus vieux légumes cultivés par les hommes. Donc, qui a fait la richesse des peuples d'Amérique centrale, en particulier, en ces temps-là, les Péruviens. Et donc, là, les pommes de terre ont été cultivées, pour commencer, dans la cordillère des Andes. C'était il y a quand même 8000 ans. 8000 ans, on a inventé l'agriculture tout juste. Et voilà, qu'on cultivait la patate, le maïs, la citrouille, et j'en passe encore. Alors, il a fallu attendre que nous, Européens, allions envahir l'Amérique en 1492. Mais non, vous connaissez tous les cités d'or et le célèbre dessin animé des années 80. Et donc, c'est autour de 1530 que le sanguinaire Pissarro a ramené les premières pommes de terre en Europe. Voilà. On était parti chercher de l'or. On n'en a pas tant trouvé que ça. Les Incas l'avaient rangé, l'avaient caché. Mais on est revenu avec plein de légumes. Et qui ont fait vraiment de l'Europe ce qu'elle est devenue. Je vais vous expliquer pourquoi après. On a commencé à les cultiver seulement pour les animaux. Les Allemands, les Italiens, eux, ils ont vite compris que c'était très bon et que c'était très nourrissant. Et donc, il a fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que le roi, je pense à ma maman qui était institutrice et qui m'a appris comment on a démocratisé en France les pommes de terre. Eh bien, comme on ne les mangeait pas, comme les solanacées sont des plantes qui sont toxiques, parfois, surtout crues, le roi a planté un champ de pommes de terre et l'a fait garder. Et donc, quand les paysans se sont rendus compte qu'on gardait des champs de pommes de terre, eh bien, on est allé les voler, à partir du moment où elles étaient précieuses. Et de ce jour-là, je vous passe l'histoire de Parmentier et son célèbre hachis, eh bien, on s'est mis à consommer des pommes de terre. Et la pomme de terre est un des premiers facteurs du développement économique de l'Europe.
Mais c'est vrai que pour les Cévenols avaient plus l'habitude de manger les châtaignes que les pommes de terre, effectivement. Voilà.
L'arbre à pain, la châtaigne en Cévennes, est arrivée bien avant la pomme de terre. De toute façon, la pomme de terre, on a commencé, on va dire, à la démocratiser dans les années 1750, on va dire. Avant tous les autres légumes, la pomme de terre nourrit l'humanité. À tel point, je prends toujours comme exemple, quand en 1845, le mildiou est arrivé en Irlande, il y a eu 1 million de morts. Une très grosse famine et un très gros exode vers les pays étrangers. Parce que les Irlandais avaient fait de la pomme de terre une culture qui était presque une monoculture. Hein. Et donc, voilà. Alors la pomme de terre, elle a un avantage par rapport à la tomate, au poivron et aubergine, qui sont ses cousines, c'est que son cycle végétatif, il est court. En 3 mois, maximum 4 mois, on peut obtenir des pommes de terre. Ce qui veut aussi dire qu'on peut planter des pommes de terre du pôle nord au pôle sud. Pas tout à fait, mais disons, des latitudes très nord et très sud sur la planète. Donc la pomme de terre a un succès. Elle est cultivée partout. Moins en Afrique. Voilà, ça manque d'eau. Mais par contre, elle est cultivée partout. Alors comment on plante la pomme de terre ?
Bonne question.
Voilà. La pomme de terre, elle aime une terre bien enrichie, comme toutes les solanacées. Alors on aura préalablement enrichi son potager avec du vieux compost, du vieux fumier. Je ne dis pas pourquoi, je l'ai dit la fois dernière, à l'automne. Et ensuite, on va préparer son terrain minutieusement à la fin de l'hiver, au début du printemps. Bien évidemment, la pomme de terre est un légume qui gèle. La plante gèle, donc il va falloir la planter, pas avant le milieu du printemps. Alors, pour savoir, les vieux jardiniers ont un repère.
C'est le lilas.
C'est le lilas, bravo.
Je ne suis pas une vieille jardinière, mais...
Moi, dans les fêtes, surtout au sud de Lozère, à Espagnac, je plante mes pommes de terre avant. Pas tout mon champ de pommes de terre avant, mais le repère du lilas est un très, très, très bon repère. Environ, on va dire, allez, 15 avril. 15 avril, vous plantez vos pommes de terre, les lilas fleurissent en sud de Lozère. Eh bien, vos pommes de terre, elles vont sortir le 15 mai. C'est juste après les scènes de glace. Donc, sauf malheur, elles ne gèleront pas. Vous avez évité les scènes de glace. Voilà l'exemple. Donc la terre, la pomme de terre est une terre bien travaillée, en profondeur, et bien sûr, parce que c'est une plante qui fait des tubercules assez profonds, donc elle ne se satisfait pas d'avoir une terre travaillée que sur 5 cm de profondeur. Elle demande une fumure importante, du compost. On fait des sillons d'environ 10 cm de profondeur, bien droit si possible, je vais vous expliquer pourquoi après, avec un butoir. Avec un cordeau pour aller bien droit. Et il suffit de déposer vos pommes de terre germées, si possible. L'idéal, c'est que le germe fasse un petit centimètre de longueur. Quand il fait 10 cm de longueur, c'est que vous êtes très en retard ou que vous avez acheté votre plant bien en retard à la coopérative et qu'il est déjà germé, trop germé. Alors vous aurez des pommes de terre, mais ce n'est pas l'idéal parce que vous cassez les germes en plantant les pommes de terre. Vous pouvez aussi planter des pommes de terre qui ne sont pas germées. Ça n'a pas bien d'importance. Moi, j'aime bien planter des pommes de terre pré-germées. Ça permet de voir celles qui vont bien pousser, de celles qui ne pousseraient pas ou mal. Vous disposez vos pommes de terre. Alors moi, j'en mets à peu près entre 3 et 4 par mètre. Les raies, vous les espacez d'environ 60 cm. Alors bien sûr, les paysans les espaceront plus. Dans un petit jardin, on peut les espacer moins. Ça dépend aussi un peu le rendement qu'on veut. Vous allez recouvrir vos pommes de terre d'environ 10 cm de terre meuble, et c'est tout. Comme j'ai planté des raies bien droites, et quand je vois que mes patates commencent à sortir et qu'il y a un risque de geler, je les prébute sur les feuilles qui commencent à sortir.
Pour protéger les feuilles.
Ça peut se faire à plusieurs reprises. La pomme de terre supporte très bien le butage. C'est même indispensable pour elle. Quand on voit, on est au mois d'avril, il fait très beau la journée avec un ciel très bleu et aucun vent, risque de gel, eh bien on bute ces patates, ça évite qu'elles gèlent. Et ça, alors, des patates gelées repousseront toujours. Mais quand elles sont gelées une fois, deux fois, voire trois fois, le rendement final est bien moins important que si elles ont poussé très bien dans de bonnes conditions et qu'elles n'ont pas gelé. Les semaines passent, vos pommes de terre commencent à bien grandir. Donc vous allez les tenir bien propres. Pourquoi ? Parce que l'herbe L'herbe a tendance, quand elle envahit le champ de pommes de terre, à faire grimper la maladie. C'est-à-dire que s'il y a trop d'herbe, la maladie, le mildiou, on va en parler tout à l'heure, a tendance à plus vite envahir le champ de pommes de terre. À mesure que vos pommes de terre, vous allez les biner. Elles aiment bien être propres, elles aiment bien être toutes seules. Et vous allez les biner, et en même temps que vous les binez, vous les butez sur 10, 15, voire 20 cm de hauteur. Ça va permettre aux pommes de terre de fabriquer leur tubercule bien à l'abri de la lumière. Il faut savoir que si les pommes de terre sont au contact de la lumière, elles vont vertir, c'est-à-dire produire de la solanine, qui est une substance toxique des solanacées. Et donc vos pommes de terre sont impropres à la consommation. À ceux qui voudraient ne pas buter leurs pommes de terre, je dis, faites attention, vos patates vont être vertes et ne seront pas très bonnes.
Et quand est-ce qu'on commence à les arroser ?
Alors la pomme de terre, au début, presque pas d'arrosage. Au milieu, si je peux dire, l'arrosage va être croissant à mesure que la patate grandit. Il faut savoir que la patate se forme sous terre réellement quand la patate fleurit. Et c'est à ce moment-là, et surtout à ce moment-là, qu'elle est gourmande en eau. S'il fait chaud, les patates sont belles, le champ est joli, il commence à fleurir. C'est là absolument qu'il faut les arroser, si le temps est très sec. Si le temps est breton cette année-là et qu'il pleut un peu tous les jours, eh bien on ne les arrosera pas. Il faut savoir aussi, quand la plante commence à faner, arrêter les arrosages ou guetter la météo. Parce que quand les pommes de terre sont quasiment formées, quand la plante commence à s'affaisser, à être malade d'ailleurs, ou à jaunir, alors là, il va falloir considérablement arrêter tout simplement l'arrosage. Pourquoi ? Parce que à un moment, les patates, il va falloir pouvoir les ramasser. Et à ce moment-là, il vaut mieux que la terre soit bien sèche que trop humide, surtout s'il fait un orage. Alors, quelles sont les pommes de terre, elles sont de plusieurs catégories, essentiellement deux catégories. Il y a des pommes de terre à chair ferme. Souvent, les pommes de terre dites modernes sont à chair ferme. Et les vieilles variétés sont parfois, souvent, à chair farineuse. On me demande aussi, souvent, quand est-ce que je ramasse mes pommes de terre ? C'est très, très simple. Quand vous achetez des pommes de terre, alors déjà, vous allez acheter en fonction du manger que vous voulez faire avec. Vous voulez faire de la raclette ? La meilleure pomme de terre pour la raclette, c'est l'amandine. L'amandine.
Ou la désirée.
Ou la désirée. Ou la charlotte. Mais bon, moi j'adore l'amandine parce que c'est une patate qui est très fine, très belle. Elle n'éclate pas. Cuite à la vapeur, c'est le top. Quand on achète des amandines, on regarde sur le paquet et il est marqué que ce sont des patates mi-précoces. Des patates qui viennent en 70, 80, maximum 90 jours. C'est-à-dire que quand vous allez planter vos amandines, vous les plantez le 1er avril, eh bien vous comptez 90 jours. Tout avril, tout mai, tout juin. Ça veut dire que début juillet, à un jour près, vous allez pouvoir ramasser vos amandines. Elles sont prêtes à récolter. Alors si les plantes sont vertes, laissez-les un peu plus, ça ne sera que mieux au niveau conservation. Mais par contre, si vous me dites, je suis début juillet, c'est tôt, mes amandines sont toutes jaunes, est-ce normal ? Je vous dirai oui, elles ont peut-être le mildiou ou pas, mais elles ont fait leur cycle végétatif qui est de 90 jours. Alors les pommes de terre les plus précoces sont des pommes de terre qui viennent en 60-70 jours. Souvent, ce sont des pommes de terre qui produisent peu.
Exemple, et qui ne se conservent pas très longtemps.
Mais qui ne se conservent pas très bien. Et souvent, on les mange en primeur, justement, parce qu'elles sont très bonnes comme ça. C'est des pommes de terre qui vont se garder quelques semaines à quelques mois, mais pas plus. Et ensuite, vous avez des pommes de terre qui sont plus productives, des pommes de terre qui viennent en 120, maximum 140 jours. Donc voilà, pour savoir quand je récolte mes pommes de terre, il faut regarder sur le paquet, quand vous achetez vos pommes de terre, le nombre de jours nécessaires à cette variété-là pour produire.
Tu avais dit que tu nous parlerais un petit peu des maladies, des ravageurs, voilà. comment faire contre le mildiou, voilà. Contre les doryphores.
Alors il faut absolument éviter le mildiou. Vous l'aurez toujours le mildiou. Mais il faut essayer de l'avoir le moins possible et le plus tard possible. Le jour où vous voyez le mildiou arriver, des petites taches sur les feuilles. Si vos patates ont 60 jours de culture et que vous avez mis des patates qui viennent en 120 jours de culture, dites-vous bien une chose, vous n'aurez pas de patates. Vous aurez des centaines et des milliers de patates, petites, biscornues, qui peut-être vont d'ailleurs pourrir dès que vous les aurez ramassés, et là, c'est la cata. Donc, il ne faut pas arriver à ça. Par contre, si vous avez le mildiou qui arrive à 80 jours sur des patates qui ont un cycle de 85 jours, vous aurez des patates. Ne tardez pas à les ramasser, mais vous aurez des patates. Donc, il faut à tout prix éviter que le mildiou arrive trop vite. Alors, pour que le mildiou évite d'arriver trop vite, ben déjà, il faut que les pommes de terre soient dans de bonnes conditions de culture. Il ne faut pas les arroser sur les feuilles. Elles n'aiment pas quand il y a dans les fonds de vallée, et ça, on ne peut pas l'enlever, l'arroser. Elles n'aiment pas l'orage. Pourquoi ? Parce que comment s'inocule le mildiou ? Le mildiou, il s'inocule principalement par la pluie battante. Donc si vous vous arrosez en pluie battante, vous inoculez le mildiou à vos pommes de terre. Le ricochet de la goutte d'eau, elle a pris les spores de la maladie, car c'est un champignon, et elle va l'inoculer sur les feuilles du bas de la plante. S'ensuit une durée de gestation qui est de 11 jours. Sachez-le. Alors, si le lendemain de l'orage, vous dites « Oh, mais mes patates, elles sont très bien », non, ne vous dites pas ça. Dites-vous « Mes patates ont possiblement le mildiou, il faut que je les traite ». N'attendez pas qu'elles soient malades, car n'importe quel traitement, que ce soit la bouillie bordelaise qui est autorisée en agriculture biologique, ou n'importe quel purin que vous ferez, ne sont toujours que préventifs. Il faut traiter une plante quand elle est saine. Quand elle est malade, c'est trop tard.
Donc, il faut vraiment anticiper les traitements. Quoi.
Le mildiou, il aime une température de, je crois, 18 à 24. Donc, s'il fait un peu froid, ce n'est pas idéal pour les patates, mais le mildiou ne se déclarera pas. Parce que le mildiou, c'est comme les champignons dans les bois. Au mois de mai, les cèpes, ils sortent en Cévennes quand il y a un certain taux d'humidité, un certain nombre de jours après la pluie et un certain degré. En fonction de ces trois paramètres, vous pouvez calculer quasiment où vont sortir les cèpes, et c'est pareil pour le mildiou. C'est comme quand on traite à la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise, c'est un très bon traitement, le presque seul traitement chimique, mais qui est autorisé en agriculture biologique. Mais il faut respecter les doses. Par contre, par exemple, vous pouvez traiter à la bouillie bordelaise, et vous savez ensuite que comme les produits modernes sont efficaces, on va dire, il peut pleuvoir 50 mm sur votre bouillie bordelaise. Donc aujourd'hui, vous venez de traiter à la bouillie bordelaise et demain, il pleut 10 mm. Vous mettez votre pluviomètre pas loin du champ de patates et vous savez que vos patates sont encore sauvées.
Protégées.
Ouais. La semaine prochaine, il pleut 20 mm. Vous êtes encore protégés. C'est comme ça que calculent les vignerons. Alors après, quand on en est au 45e mm, elles sont plus trop protégées. Mais c'est pour ça que ça ne sert à rien de traiter à la bouillie bordelaise chaque fois qu'il pleut. Parce que là, on ne fait plus de bio. Et deux, eh bien, c'est surtraité. De toute façon, c'est lessivé et ça ne sert à rien.
Et les doryphores ?
Ah, les doryphores. Alors moi, j'ai une super... je prends ma femme, mes enfants, et je leur dis, tenez, ceci est une boîte. Allez dans les champs de pommes de terre et dès qu'on commence à voir les premiers doryphores sortir, on les ramasse. En ramassant les premiers... Alors d'accord, je n'ai pas 10 hectares de patates. J'ai quand même 400 pieds.
Et vous pouvez commander un truc à votre femme.
Oui.
Ça se fait plus, ça, normalement.
Ça se fait plus, mais... moi, en contrepartie, je les invite au restaurant ou je donne la pièce. Hein. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc, ramasser les doryphores.
Ramassage manuel, quoi.
Dans un champ, alors pas bien sûr 10 hectares. Hein. Moi, je suis un particulier comme vous. Ramasser les doryphores, c'est la meilleure manière de contenir les doryphores. Deuxième option pour les doryphores, changer ses patates de place. Évidemment, la rotation des cultures, on empêche les doryphores de revenir trop vite. Troisième option pour les doryphores, qui est mon option principale. Je mets les patates avant tout le monde à Espagnac, parce que je fais un peu la course. Et comme mes patates arrivent très tôt, les doryphores ne sont pas encore sortis quand mes pommes de terre sont belles et bonnes à manger. Et quand les doryphores sortent dans les champs de partout des voisins, moi, elles ne viennent plus chez moi. Parce que moi, mes patates, elles sont trop vieilles, si je peux dire. Ce n'est pas appétissant pour un doryphore. Quatrième option, vous voyez, il y en a des options. Planter du lin. Planter du lin bleu, alors l'idéal c'est une raie de patate, une raie de lin, une raie de patate, une raie de lin. Et si vous êtes fou, avec le bleu, vous pouvez mettre du jaune ou du orange, vous mettez des œillets d'Inde. Voilà, le lin repousse le doryphore. Donc, entre tout ça, on peut faire quelque chose.
Et donc récolter des patates.
Et récolter des patates. Alors pour récolter des patates, on pense à une chose. Sauver l'humanité de la famine. Je rigole, mais pas tant que ça. Mais si on veut sauver l'humanité de la famille, ou tout au moins déjà sa famille, il faut les récolter dans des bonnes conditions. C'est-à-dire il faut guetter la météo. Quand vos plantes commencent à être le plus sèches possible, mais pas totalement séchées qu'on ne les voit plus. Il ne faut pas partir en vacances 3 semaines au moment où de ramasser les patates. Quand on voit les fans, mais qui sont sèches, on va arracher nos patates une belle journée ensoleillée, le matin tôt, à la fraîche. Et comme ça, on laisse nos patates 3 ou 4 heures sur le sol se ressuyer au soleil. Ça va énormément les sécher, les assainir. Ensuite, on va ramasser nos patates dans des caisses. On ne met dans les caisses que les pommes de terre qui sont absolument ni malades, ni abîmées, ni cognées, ni par l'arrachage. Tant pis, si on récolte 10 kg de patates abîmées, on les met de côté. On les mange tout de suite, on ne les mélange pas aux autres. Je mets ça à la cave. Dans un mois, je ressors toutes mes caisses. Je passe toutes mes patates en revue, parce qu'au milieu de tout ça, il va forcément y avoir quelques pommes de terre qui sont abîmées, qu'on n'a pas vues, et qui vont pourrir très vite. Si on les laisse dans le tas de pommes de terre à la cave et qu'on ne va pas les voir pendant 6 mois, quand on ira à Noël chercher nos patates, on aura un tas de pourriture.
Il faut aussi les dégermer régulièrement.
Alors, dégermer régulièrement, c'est sûr qu'il vaut mieux dégermer que si on ne le fait pas, parce qu'on se retrouve au mois à Noël. Hein, alors déjà, le stockage dans une cave le plus fraîche possible, où il ne gèle pas, bien sûr, je vais dire entre 2 et 8 degrés. C'est l'idéal. Pas 15 degrés, parce qu'à 15 degrés, elles vont germer plus vite. Encore moins 20 ou 25 degrés. Alors surtout pas à la lumière, bien évidemment, sinon elles vont faire de la solanine et vous pourrez le donner aux cochons. Voilà, la cave la plus fraîche possible. Moi, je déconseille les tas de patates à même le sol. Beaucoup de gens font ça. Ceci dit, au niveau de la pourriture, des maladies, c'est peut-être pas le mieux. Moi, je préfère des caisses individuelles. J'en mets 15 kg par caisse. Je fais 10 caisses s'il faut. C'est plus pratique à transporter, à trier, à dégermer.
Peut-être tu peux nous donner une recette favorite à base de pommes de terre.
Par exemple, moi, la raclette, on a parlé de princesse Amandine, pommes de terre très bonnes. Ah, les frites. Alors, la vieille méthode, c'était la binge. La sirtema se fait très bien en frites aussi. La charlotte, qui est une pomme de terre polyvalente, se fait bien en frites aussi. Donc déjà, il faut prendre la bonne patate pour la bonne recette. Moi, je fais le gratin dauphinois. Alors, gratin dauphinois amélioré. Alors, avec le gratin dauphinois, j'aime bien le faire avec de la blanche. La blanche, c'est un petit peu l'amélioration de la binge. C'est-à-dire qu'elle a l'avantage de la binge, c'est-à-dire qu'elle produit beaucoup, mais en étant plus fine, elle n'a pas de maladie de peau, alors que la binge a des maladies de peau. Ce sont des vieilles pommes de terre, hein, on les prend comme elles sont. Donc, gratin dauphinois, chez nous, ça marche bien. Donc, on fait des couches de pommes de terre coupées très fines, très fines, très fines. Après, couche d'oignons. D'où des Cévennes si on en a, sinon moi je mets des oignons de Mulhouse ou des oignons rouges, ça va aussi très bien. On met quelques lardons au milieu, ça ne nuit pas. On fait 3-4 couches comme ça, et bien évidemment on met du lait mélangé à de la crème, mélangé à des œufs battus, tout simplement salé, poivré, assaisonné à sa convenance, et vous faites cuire ça 1h15, 1h30, et c'est très bon. La pomme de terre, il y a des centaines de recettes. Les pommes de terre roses aussi sont très intéressantes. Ce sont des pommes de terre polyvalentes. Les roses sont polyvalentes. Il faut savoir que les premières pommes de terre que l'homme a connues, les Indes, c'était des pommes de terre roses.
Mais on va finir sur ce conseil-là. Est-ce que tu peux nous dire si l'association Jardin Nature 48 a des prochains rendez-vous là, au mois de mars ?
Ah, cette fois-ci, nous avons pris notre calendrier. Et on ne se trompera pas pour dire que le 1er mars, dans mon jardin, alors le jardin du Mimosa, à Ispagnac, on va planter les primeurs. J'adore, pour moi, le jardin, c'est quelque chose qui doit marcher 11 mois et demi sur 12. Donc, il est important de commencer le jardin tôt, avec tous les légumes qui peuvent se planter tôt, pour avoir, si on veut planter la petite jardinière de petits pois, carottes, pommes de terre nouvelles et petite laitue, petit cœur de laitue au mois de mai, eh bien, il faut s'y prendre au mois de février, hein, sinon c'est trop tard. Mmh. Donc, le 1er mars, nous aurons cet atelier chez moi. Et il y a un deuxième atelier, affûtage et faire ses manches d'outils. Le 8 mars, et là, ça se passera à Mende, animé par Jean-Louis Rocoplan.
Super, ben merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine chronique.
À table !
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
sur Radio Bartas.
107 FM ! À table !
Retrouvez-nous une semaine sur deux, le mardi à 15h et le dimanche à 11h30.